Fyodor Mikhailovich Dostoïevski, Les Nuits Blanches. Première nuit. La nuit était merveilleuse, une de ces nuits comme notre jeunesse seule en connut, cher lecteur, un firmament si étoilé, si calme, qu'en le regardant se demandait involontairement « Peut-il vraiment exister des méchants sous un si beau ciel ?» Et cette pensée est encore une pensée de jeunesse, cher lecteur, de la plus naïve jeunesse. Mais puissiez-vous avoir le cœur bien longtemps jeune? En pensant aux méchants, je songeais, non sans plaisir, à la façon dont j'avais employé la journée qui venait de finir. Dès le matin, j'avais été pris d'un étrange chagrin. Il me semblait que tout le monde me fuyait, m'abandonnait, qu'on me laissait seul. Certes, on serait en droit de me demander « Qui est-ce donc ce tout le monde ?» Car depuis 8 ans que je vis à Pétersbourg, je n'ai pas réussi à me faire un seul ami. Mais qu'est-ce qu'un ami? Mon ami, c'est Pétersbourg tout entier. Et s'il me semblait ce matin que tout le monde m'abandonnait, c'est que Pétersbourg tout entier s'en était allé à la campagne. Je m'effrayais à l'idée que j'allais être seul. Depuis déjà 3 jours, cette crainte germait en moi sans que je puisse me l'expliquer, et depuis 3 jours, j'errais à travers la ville, profondément triste, sans rien comprendre à ce qui se passait en moi. À Nevski, au jardin, sur les quais, plus un seul visage de connaissance. Sans doute, pas un ne me connaît parmi ces visages de connaissance, mais moi je les connais tous et très particulièrement. J'ai étudié ces physionomies, j'y sais lire leur joie et leur tristesse, et je les partage. Je me suis lié d'une étroite amitié, peu s'en faut du moins car nous ne nous sommes jamais parlé, avec un petit vieillard que je rencontrais presque tous les jours à une certaine heure sur la Fontaka. Un vénérable petit vieillard, toujours occupé à discuter avec lui-même, la main gauche toujours agitée, et dans la droite, une longue canne à pomme d'or. Si quelque accident m'empêchait de me rendre à l'heure ordinaire à la Fontanka, j'avais des remords, je me disais « Mon petit vieillard a le spleen ». Aussi étions-nous vivement tentés de nous saluer, surtout quand nous nous trouvions tous deux dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas longtemps, nous avions passé 2 jours entiers sans nous voir, nous avons fait ensemble, simultanément, le même geste pour saisir nos chapeaux. Mais nous nous sommes rappelés à temps que nous ne nous connaissions pas et nous avons échangé seulement un regard sympathique. Je suis très bien aussi avec les maisons. Quand je passe, chacune de la cour à ma rencontre me regarde de toutes ses fenêtres et me dit « Bonjour, comment vas-tu ? Moi, grâce à Dieu, je me porte bien. Au mois de mai, on m'ajoutera un étage. Ou bien, comment va la santé? Demain, on me répare. Ou bien, j'ai failli brûler, Dieu que j'ai eu peur, etc. D'ailleurs, je ne les aime pas toutes également, j'ai mes préférences. Parmi mes grandes amies, j'en sais une qui a l'intention de faire cet été une cure chez l'architecte. Je viendrai certainement tous les jours dans sa rue exprès pour voir si on ne la soigne pas trop, car ces médecins-là, Dieu la garde. Mais je n'oublierai jamais mon aventure avec une très jolie maisonnette rose tendre, une toute petite maison en pierre qui me regardait avec tant d'affection et avait pour ses voisines mesquines et mal bâties tant d'évident mépris que j'en étais réjoui chaque fois que je passais auprès d'elle. Un certain jour, ma pauvre amie me dit avec une inexprimable tristesse « On me peint en jaune. Les brigands, les barbares, ils n'épargnent rien, ni les colonnes, ni les balustrades. » Et en effet, mon amie jaunit comme un citron. On eût dit que la bile se répandait dans son corps. Je n'eus plus le courage d'aller la voir, la pauvre jolie ainsi défigurée, ma pauvre amie peinte aux couleurs du céleste empire. Vous comprenez maintenant, lecteur, comment je connais tout Pétersbourg. Je vous ai déjà dit les 3 journées d'inquiétude que je passais à chercher les causes du singulier état d'esprit où je me trouvais. Je ne me sentais bien nulle part, ni dans la rue, ni chez moi. Mais que me manque-t-il donc, pensais-je, pourquoi suis-je si mal à l'aise? Et je m'étonnais de remarquer pour la première fois la laideur de mes murs enfumés et du plafond où Matrena cultivait des toiles d'araignée avec grand succès. J'examinais mon mobilier, meuble par meuble, me demandant devant chacun « N'est-ce pas là, quel malheur ?» Car en temps normal, il suffisait qu'une chaise fût placée autrement que la veille pour que je fusse hors de moi. Puis je regardais par la fenêtre. Rien, nulle nouvelle cause d'ennui. J'imaginais appeler Matrena et de lui faire des reproches paternels au sujet de sa saleté en général et des toiles d'araignée en particulier. Mais elle me regarda avec stupéfaction, et c'est tout ce que j'obtins d'elle. Elle sortit de la chambre sans me répondre un seul mot. Et les toiles d'araignée ne disparaîtront jamais. C'est ce matin seulement que j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais ils ont tous fichu le camp, la campagne. Passez-moi ce mot trivial, je ne suis pas en train de faire du grand style. Oui, tout Pétersbourg est à la campagne. Et aussitôt, chaque gentleman honorable, je veux dire d'extérieur comme il faut, qui passait en fiacre, se transformait à mes yeux en un estimable père de famille qui, après ses occupations ordinaires, s'en allait légèrement dans sa maison familiale à la campagne. Tous les passants, depuis 3 jours, avaient changé d'allure et tout en eux disait clairement « Nous ne sommes ici qu'en passant et dans 2 heures nous serons partis. » S'il s'ouvrait dans ma rue une fenêtre où d'abord avait tambouriné de petits doigts blancs comme du sucre, puis d'où sortait une jolie tête de jeune fille qui appelait le marchand de fleurs, il ne me semblait pas du tout que la jeune fille prétendît se faire avec ses fleurs un printemps intime dans son appartement étouffant de Saint-Pétersbourg. Cela signifiait au contraire « Ces fleurs à bientôt, j'irai les reporter dans les champs. » Plus encore, car j'ai fait des progrès dans ma nouvelle découverte, je sais déjà, rien qu'à l'aspect extérieur, discerner dans quelle ville telle personne demeure. Les habitants de Kamenny, des îles Aptekatsky ou de la route de Peterkov se distinguent par des manières recherchées, d'élégants costumes d'été et de jolies voitures. Les habitants de Pargolovo et au-delà ont un caractère particulier de sagesse et de bonne tenue. Ceux des îles Krestovski ont une imperturbable gaieté. Rencontrai-je une procession de charretiers qui marchaient paresseusement, les guides dans leurs mains auprès de leurs charrettes chargées de montagnes de meubles, tables, chaises, divans turcs et pas turcs, ustensiles de ménage, le tout terminé assez souvent par une cuisinière qui, assise au sommet du tas, couvait les biens de ses maîtres? Regardais-je glisser sur la Neva les bateaux eux aussi chargés de meubles? Charrettes et bateaux se multipliaient à mes yeux. Il me semblait que toute la ville s'en allait, que tout déménageait par caravane, que la ville allait être déserte. J'en étais attristé, offensé, car moi, je ne pouvais aller à la campagne. J'étais pourtant prêt à partir avec chaque charrette, avec chaque monsieur un peu cossu qui louait une voiture. Mais pas un seul ne m'invitait. On eût dit que tous m'oubliaient, comme si j'étais pour eux un étranger. Je marchais beaucoup, longtemps, de sorte que je finissais par ne plus savoir où j'étais, quand j'aperçus les fortifications. Immédiatement, je me sentis joyeux. Je m'engageais à travers les champs et les prairies. Je n'éprouvais aucune fatigue. Il me semblait même qu'un lourd fardeau tombait de mon âme. Tous les gens en carrosse me regardaient avec tant de sympathie qu'un peu plus, ils m'auraient salué. Tous étaient contents, je ne sais pourquoi. tous fumaient de beaux cigares. Moi, j'étais heureux. Je me croyais tout à coup transporté en Italie, tant la nature m'étonnait. Pauvre citadin à demi malade, à demi mort de l'atmosphère empoisonnée de la ville. Il y a quelque chose d'ineffablement touchant dans notre campagne pétersbourgeoise, quand, au printemps, elle déploie soudain toute sa force, s'épanouit, se pare, s'enguirlande de fleurs. Elle me fait songer à ces jeunes filles languissantes, anémiées, qui n'excitent que la pitié, parfois l'indifférence, et brusquement, du jour au lendemain, deviennent inexprimablement merveilleuses de beauté. Vous demeurez stupéfait devant elle, vous demandant quelle puissance a mis ce feu inattendu dans ses yeux tristes et pensifs, qui a coloré d'un sang rose ses joues pâles naguère, qui a répandu cette passion sur ses traits et qui n'avait pas d'expression, pourquoi s'élèvent et s'abaissent si profondément ces jeunes seins? Mon Dieu, qui a pu donner à la pauvre fille cette force, cette soudaine plénitude de vie, cette beauté? Qui a jeté cet éclair dans ce sourire? Qui donc fait ainsi étinceler cette gaieté? Vous regardez autour de vous, vous cherchez quelqu'un, vous devinez. Mais que les heures passent et peut-être demain retrouverez-vous le regard triste et pensif d'autrefois, le même visage pâle, les mêmes allures timides, effacées. C'est le sceau du chagrin, du repentir. C'est aussi le regret de l'épanouissement éphémère, et vous déplorez que cette beauté se soit fanée si vite. Quoi ? Vous n'avez même pas eu le temps de l'aimer. Je ne rentrais dans la ville qu'assez tard. 10 heures sonnaient. La route longeait le canal, c'est un endroit désert à cette heure. Oui, je demeure dans la banlieue la plus reculée. Je marchais en chantant. Quand je suis heureux, je folonne toujours. C'est, je crois, l'habitude des hommes qui, n'ayant ni amis ni camarades, ne savent avec qui partager un moment de joie. Mais ce soir-là me réservait une aventure. À l'écart, accoudée au parapet du canal, j'aperçus une femme. Elle semblait examiner attentivement l'eau trouble. Elle portait un charmant chapeau à fleurs jaunes et une coquette mantille noire. « C'est une jeune fille et sûrement une brune, pensais-je. » Elle semblait ne pas entendre mes pas et ne bougea point quand je passais auprès d'elle, en retenant ma respiration et le cœur battant très fort. C'est étrange, pensais-je, elle doit être très préoccupée. Et tout à coup je m'arrêtai, il me semblait avoir entendu des sanglots étouffés. Mais je ne me trompe pas, elle pleure. Un instant de silence, puis encore un sanglot. Mon Dieu, mon cœur se serra. Je suis d'ordinaire très timide avec les femmes, mais dans un pareil moment, quand je retournais sur mes pas, je m'approchais d'elle, et j'aurais certainement prononcé le mot « madame » si je ne m'étais rappelé à temps que ce mot est utilisé au moins dans 1000 circonstances analogues par tous nos romanciers mondains. Ce n'est que cela qui m'arrêta, et je cherchais un mot plus rare, quand la jeune fille m'aperçut, se redressa et glissa vivement devant moi en longeant le canal. Je me mis aussitôt à la suivre. Mais elle s'en aperçut, quitta le canal, traversa la rue et prit le trottoir. Je n'osais traverser la rue à mon tour, mon cœur sautait dans ma poitrine comme un oiseau en cage. Heureusement, le hasard me vint en aide. Sur le trottoir où marchait l'inconnu et tout près d'elle, surgit un monsieur en frac, d'un âge sérieux. On eût pu dire, par exemple, que sa démarche aussi fut sérieuse. Il se dandinait en rasant prudemment les murs. La jeune fille filait droit comme une flèche, d'un pas à la fois précipité et peureux, comme font toutes les jeunes filles qui veulent éviter qu'on leur offre de les accompagner. Et certes, avec son allure mal assurée, le monsieur, dont l'ombre se dandinait sur les murs, n'eût pu la rejoindre s'il ne s'était brusquement mis à courir. Elle allait comme le vent, mais son persécuteur gagnait du terrain. Il était déjà tout près d'elle. Elle jeta un cri et je remerciai la destinée pour l'excellent bâton que je tenais dans ma main droite. En un instant, je fus de l'autre côté. Le monsieur prit en considération l'argument irréfutable que je lui proposais, se tut, recula, et seulement quand nous l'eûmes distancé, se mit à protester en termes assez énergiques, mais ses paroles se perdirent dans l'air. « Prenez mon bras, » dis-je à l'inconnu. Elle passa silencieusement sous mon bras, sa main tremblante encore de frayeur. « Oh, le monsieur inattendu, comme je le bénissais !» Je jetai un rapide regard sur elle. Elle était brune, comme je l'avais deviné, et fort jolie. Ses yeux étaient encore mouillés de larmes, et ses lèvres souriaient. Elle me regarda furtivement, rougit un peu et baissa les yeux. Ben, « vous voyez !» « Pourquoi m'aviez-vous repoussé si j'avais été là? Rien ne serait arrivé. »«
Mais je ne vous connaissais pas. Je croyais que vous aussi... »«
Me connaissez-vous davantage maintenant ?»«
Un peu. Par exemple, vous tremblez. Pensez-vous que je ne sache pas pourquoi ?»«
Ah, oh, vous avez deviné du premier coup ?» m'écriai-je, transporté de joie, que la jeune fille fut si intelligente, car l'intelligence et la beauté vont très bien ensemble. Oui, vous avez deviné à qui vous aviez affaire. C'est vrai, je suis timide avec les femmes. Je suis même plus ému maintenant que vous ne l'étiez vous quand ce monsieur vous a fait peur. C'est comme un rêve. Non, c'est plus qu'un rêve, car jamais même en rêve il ne m'arrive de parler à une femme.
Que dites-vous vraiment ?
Oui, si mon bras tremble, c'est que jamais encore une aussi jolie petite main ne s'y est appuyée. Je n'ai pas du tout l'habitude des femmes. J'ai toujours vécu seul, aussi je ne sais pas leur parler. Peut-être bien vous ai-je déjà dit quelques sottises. Parlez franchement, vous le pouvez, je ne suis pas susceptible.
Ah, mais vous n'avez pas dit de sottises, pas du tout, au contraire. Et puisque vous voulez que je vous parle franchement, je vous dirai qu'une telle timidité plaît aux femmes. Et si vous voulez tout savoir, je vous dirai encore qu'elle me plaît particulièrement. Aussi, je vous permets de m'accompagner jusqu'à ma porte.
Mais, dis-je étouffant de joie, vous m'en direz tant que je cesserai d'être timide, et alors, adieu tous mes avantages.
Des avantages, quels avantages ? Pourquoi faire ? Voilà qui n'est pas bien.
Pardon. Comment voulez-vous que je ne désire pas
plaire, n'est-ce pas ?
Eh oui, oui, soyez bonne, au nom de Dieu. Écoutez, j'ai 26 ans et personne encore ne m'a aimé. Comment donc pourrais-je parler adroitement et à propos ? Pourtant, il faut que je parle. J'ai envie de tout vous dire à vous. Mon cœur crie, je ne puis me taire. Croiriez-vous ? Pas une seule femme, jamais, jamais, et pas un ami. Et tous les jours, je rêve qu'enfin, je vais rencontrer quelqu'un, je rêve, je rêve. Et si vous saviez combien de fois j'ai été amoureux de cette façon ?
Mais comment, de qui ?
De personne, idéalement. Ce sont des figures de femmes aperçues en rêve. Mes rêves sont des romans entiers. Oh, vous ne me connaissez pas, il est vrai. Et il ne se pouvait être autrement. J'ai rencontré 2 ou 3 femmes. Mais quelles femmes ! Oh, l'éternel pot-au-feu ! Mais vous riez si je vous racontais que j'ai plusieurs fois fait le rêve que je parlais dans la rue à une dame du plus grand monde. Oui, dans la rue, tout simplement. La dame était seule, et moi je lui parlais respectueusement, timidement, passionnément. Je lui disais que je me perds dans la solitude,
qu'il ne faut pas me renvoyer, que nulle femme ne m'aime, que c'est le devoir de la femme de ne pas repousser la prière d'un malheureux, que je lui demande tout au plus deux paroles de sœur, deux paroles compatissantes, qu'elle doit donc m'écouter, qu'elle peut rire de moi s'il lui plaît, mais qu'il faut qu'elle m'écoute, qu'il faut qu'elle me rende l'espérance que j'ai perdue. Deux paroles, seulement deux paroles, et puis ne la revoir plus jamais. Mais vous riez, du reste, ce que je dis est en effet très risible. Ne vous fâchez pas, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Si vous essayiez, vous réussiriez peut-être, même si la scène se passait dans la rue. Plus c'est simple et plus c'est sûr. Pas une femme de cœur, pourvu qu'elle ne fût ni sotte, ni, en ce moment même, de mauvaise humeur, n'oserait vous refuser les deux paroles que vous implorez. Pourtant, qui sait? Peut-être vous prendrait-on pour un fou. J'ai jugé d'après moi, car je sais bien comment vivent les gens sur la terre. Oh, je vous remercie, m'écriai-je, vous ne pouvez pas comprendre le bien que vous venez de me faire. Bon, mais dites-moi, à quoi avez-vous vu que je suis une femme avec laquelle, enfin, eh bien, une femme digne d'attention et d'amitié, en un mot, pot-au-feu, comme vous dites. Pourquoi vous êtes-vous décidé à vous approcher de moi? Pourquoi? Mais vous étiez seul, ce monsieur trop entreprenant, il faisait nuit, convenez que c'était le devoir. Mais non, auparavant déjà, de l'autre côté, vous vouliez m'aborder. Là, de l'autre côté, mais vraiment, je ne sais comment vous répondre, je crains. Savez-vous, bon, je me sentais aujourd'hui très heureux. La marche, les chansons que je me suis rappelées, la campagne, jamais je ne me suis senti si bien. Vous voyez, cela m'a semblé, peut-être, pardonnez-moi si je vous le rappelle, j'ai cru vous avoir entendu pleurer, et moi, je n'ai pu supporter cela, mon cœur s'est serré. Oh, mon Dieu, étais-je coupable d'avoir pour vous une pitié fraternelle? Pouvais-je vous offenser en m'approchant de vous malgré moi? Taisez-vous, dit la jeune fille en baissant les yeux et en me serrant la main. J'ai eu tort de parler de cela, mais je suis contente de ne pas m'être trompée sur vous. Eh bien, me voici chez moi. Il faut traverser cette petite ruelle. Il n'y a plus que deux pas. Adieu et merci. Alors, nous ne nous verrons plus jamais, c'est fini. Voyez-vous, dit en riant la jeune fille, vous ne vouliez d'abord que deux mots, et maintenant, du reste, nous nous reverrons peut-être. Je viendrai ici demain. Oh, pardon, je suis déjà exigeant. Oui, vous n'avez pas de patience, vous ordonnez presque. Écoutez-moi, interrompis-je. Je ne puis pas ne pas venir ici demain. Je suis un rêveur, j'ai si peu de vie réelle, j'ai si peu de moments comme celui-ci que je ne puis pas ne pas les revivre dans mes rêves. Je rêverai de vous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Je viendrai ici demain absolument, précisément ici demain à la même heure, et je serai heureux de m'y souvenir de la veille. Cette place m'est déjà chère. J'ai deux ou trois endroits pareils dans Pétersbourg. Dans l'un d'eux, j'ai pleuré d'un souvenir. Qui sait? Il y a 10 minutes, vous aussi, vous pleuriez peut-être pour quelques souvenirs. Peut-être autrefois avez-vous été très heureuse ici. Je viendrai peut-être aussi demain à 10 heures. Je vois que je ne peux plus vous le défendre. Mais il ne faut pas venir ici. Ne pensez pas que je vous fixe un rendez-vous. Je prévois seulement que j'aurai à venir ici pour mes affaires, mais, eh bien, franchement, je ne serais pas fâché que vous y veniez aussi. D'abord, je puis avoir encore des désagréments, comme aujourd'hui, mais ils sont cela. En un mot, je voudrais tout simplement vous voir pour vous dire deux mots. N'allez pas me juger mal pour cela. Ne pensez pas que je donne si facilement des rendez-vous. Je ne vous aurais pas dit cela si... Mais que cela reste un secret, c'est la condition. Une convention? Mais dites tout de suite que c'est une condition. Je consens à tout, m'écriai-je, transporté, à tout. Je réponds de moi, je serai obéissant, respectueux. Vous me connaissez. Et c'est précisément parce que je vous connais que je vous invite demain. Mais vous, prenez garde à cette autre condition tout à fait capitale. Je vais vous parler franchement. Ne devenez pas amoureux de moi. Cela ne se peut pas, je vous assure. Pour l'amitié, je veux bien, voici ma main. Mais l'amour, non, je vous en prie. Je vous jure, ne jurez pas. Vous êtes inflammable comme la poudre. Ne m'envoyez pas pour vous avoir dit cela, si vous saviez. Moi non plus, je n'ai personne au monde à qui faire une confidence, demander un conseil. Vous, vous êtes une exception. Je vous connais comme si nous étions des amis de 20 ans. N'est-ce pas que vous ne me trahirez pas? Vous verrez. Mais comment vivre encore tout ce grand jour? Dormez bien, bonne nuit, et rappelez-vous que j'ai déjà confiance en vous. Dites, on n'a pas à rendre compte de tous ces sentiments, même d'une sympathie fraternelle. C'est vous qui m'avez dit cela, et vous l'avez si bien dit que la pensée m'est venue aussitôt de me confier à vous et de vous dire. Quoi, mon Dieu, dire quoi? À demain. Que cela reste un secret jusqu'à demain. Ça vaudra mieux pour vous. Ça ressemble mieux à un roman. Peut-être vous dirai-je demain tout, et peut-être ne vous dirai-je rien. Je veux d'abord causer avec vous, vous mieux connaître. Moi, déclarai-je avec décision, je vous raconterai demain toute mon histoire. Mais quoi donc, quelque chose de merveilleux se passe en moi. Où suis-je donc, mon Dieu? Eh bien, n'êtes-vous pas contente maintenant de ne pas vous être fâchée tout à l'heure, de ne pas avoir repoussé dès le premier mot? En 2 minutes, vous m'avez rendu heureux pour toute la vie. Oui, heureux. Vous m'avez réconcilié avec moi-même. Vous avez peut-être éclairci tous mes doutes. S'il me revient des instants semblables... Eh bien, je vous dirai demain tout, vous saurez tout, tout. Alors, c'est vous qui commencerez. Entendu. Au revoir, au revoir. Et nous nous séparâmes. J'errais toute la nuit, je ne pouvais me décider à rentrer. À demain. Deuxième nuit. Eh bien, vous voyez que vous vivez encore, dit-elle en riant et en me serrant les deux mains. « Je suis ici depuis 2 heures. Savez-vous ce que je suis devenu toute cette journée ?»« Oui, oui, je le sais. Mais savez-vous, vous, pourquoi je suis venu ? C'est pas pour bavarder comme hier. Désormais, il faut agir plus sagement. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. »« En quoi donc plus sagement ? Je ferai ce que vous voudrez, mais je vous jure que je n'ai jamais été si sage. » C'est possible, mais d'abord je vous prie de ne pas me serrer si fort les mains. Ensuite, j'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui. Et voici, j'ai décidé que je ne vous connais pas encore, que j'ai agi hier comme un enfant. Il va sans dire que j'ai fini par accuser mon bon cœur, que je me suis loué moi-même, comme il arrive toujours, quand nous commençons à nous analyser, de sorte que... Pour réparer ma faute, je veux prendre sur vous les renseignements les plus minutieux. Mais comme je ne puis m'adresser à un autre que vous-même, eh bien, quel homme êtes-vous? Racontez-moi votre histoire. Mon histoire? M'écriai-je terrifié. Je n'en ai pas. Mais vous me la promettiez hier. Et puis on a toujours une histoire. Vous avez vécu sans histoire? Comment avez-vous fait? Eh bien, j'ai vécu sans histoire. J'ai vécu pour moi-même, c'est-à-dire seul. Seul, seul, tout à fait. Comprenez-vous ce que signifie ce mot? Comment seul, vous n'avez jamais vu personne? Beaucoup de monde, voilà, mais toujours seul. Alors vous ne parlez à personne, rigoureusement à personne. Mais quel homme, expliquez-vous. Attendez, je devine, vous avez probablement une babouchka comme la mienne. Elle est aveugle et jusqu'à dernier temps, elle ne me laissait pas sortir. J'en désapprenais à parler. Il y a 2 ans, j'étais en train de faire des étourderies, alors elle épingla ma robe à la sienne, et vous le voyez nos journées, elle tricote des bas, quoique aveugle, et moi je lui fais la lecture à haute voix. Je suis resté près de 2 ans épinglé comme ça. Oh, mon Dieu, quel malheur! Mais non, je n'ai pas de babouchka! Et vous n'avez pas, si vous n'en avez pas, pourquoi donc restez-vous chez vous? Écoutez, vous voulez savoir qui je suis? Je vous le demande. Dans le véritable sens du mot. Dans le véritable sens du mot. Eh bien voilà, je suis un type. Un type? Quel type? S'écria la jeune fille en se mettant à rire, comme si elle n'en avait pas eu depuis tout un an l'occasion. Mais vous êtes très amusant. Tenez, voici un banc, asseyons-nous. Personne ne passe, personne ne nous entendra. Commencez votre histoire, car vous me trompiez, vous avez une histoire. D'abord, qu'est-ce qu'un type? Un type? C'est un homme ridicule, répondis-je, en commençant à rire, gagné par son rire d'enfant. C'est un caractère, c'est un... Mais savez-vous ce que c'est qu'un rêveur? Un rêveur? Ah, permettez, je suis moi-même un rêveur. Que de choses il me passait par la tête pendant les longues journées près de ma babouchka. Ils allaient loin, mes rêves. Une fois j'ai rêvé que j'épousais un prince chinois. C'est quelquefois bon de rêver. Magnifique! Ah, si vous êtes femme à épouser un prince chinois, vous me comprendrez très bien. Mais... permettez, je ne suis pas encore, je ne sais pas comment vous vous appelez. Ah, enfin vous y pensez donc. Ah, mon Dieu, ce n'est pas venu, je me sentais si bien. On m'appelle Natstenka. Et c'est tout? C'est tout, n'est-ce pas assez pour vous? Oh, beaucoup, beaucoup, au contraire, beaucoup, Natstenka. Alors? « Alors, Nastenka, écoutez donc ma risible histoire. » Je m'assis près d'elle, je pris une pose grave et pédante, et je commençai comme si je lisais dans un livre. « Il y a, Nastenka, à Saint-Pétersbourg, vous l'ignoriez peut-être, des coins assez étranges. » Le soleil qui brille partout ne les éclaire pas. Il est lui comme un autre soleil, fait exprès, très spécial. Là, ma chère Natslenka, on vit une autre vie que la vôtre. Une vie qui ne ressemble pas du tout à celle qui boue autour de vous. Une ville qu'on pourrait à peine concevoir dans quelque climat lointain, pas du tout la vie raisonnable de notre époque. Cette vie-là, c'est la mienne, Nastenka. Une atmosphère de fantastique et d'idéal, et en même temps, hélas, quelque chose de grossier, de prosaïque, quelque chose d'ordinaire, jusqu'à la suprême trivialité. Oh, fi, mon Dieu, quelle préface! Que vais-je donc apprendre? Vous apprendrez, Nastenka. Il me semble que je ne me lasserai jamais de vous appeler Nastenka. Vous apprendrez que dans ce coin vivent des hommes étranges, des rêveurs. Un rêveur n'est pas un homme, c'est un être neutre. Il vit dans une ombre perpétuelle, comme s'il se cachait même du jour. Il s'incruste dans son trou comme un escargot, ou plutôt, il ressemble davantage encore à la tortue. Qu'en pensez-vous? Pourquoi aime-t-il tant ces 4 murs qui, de toute rigueur, doivent être peints en vert, en fumée et triste? Pourquoi cet homme ridicule Si quelqu'un de ses rares amis vient le voir, et il finit par n'en avoir plus du tout, le reçoit-il avec tant d'embarras, tant de jeux de physionomie, comme s'il venait de faire un crime, comme s'il fabriquait de la fausse monnaie ou des vers qu'il va envoyer à un journal avec une lettre anonyme attestant que le poète est mort et qu'un de ses amis considère comme un devoir sacré de publier ses œuvres. Pourquoi ? Dites-le-moi, Nastenka. Les divers interlocuteurs qui se sont rassemblés chez notre rêveur ne parviennent-ils pas à engager la conversation ? Pourquoi ni rire ni plaisanterie ? Ailleurs, pourtant, et dans d'autres occasions, ils ne dédaignent ni le rire ni la plaisanterie à propos du beau sexe ou sur n'importe quel autre thème aussi gai. Pourquoi, enfin, l'ami, dès cette première visite, d'ailleurs il n'y en aura pas deux, cet ami, une connaissance récente, s'embarrasse-t-il, se guinde-t-il tant après ses premières saillies, s'il en trouve, en regardant le visage défait du maître du logis, qui finit lui-même par perdre tout à fait la carte après des efforts énormes, mais vains, pour animer la conversation, montrer du savoir-vivre, parler du beau sexe aussi, et par toutes ses concessions, plaire au pauvre garçon qui lui fait visite par erreur. Pourquoi enfin le visiteur se lève-t-il tout à coup, se rappelant une affaire urgente, et prend-il son chapeau après un salut désagréable, et retire-t-il avec tant de peine sa main de l'étreinte chaude du maître qui tâche de lui témoigner par cette étreinte silencieuse un repentir inexplicable ? Pourquoi, une fois dehors, l'ami rit-il aux éclats et se jure-t-il de ne jamais remettre les pieds chez un homme étrange, un bon garçon pourtant, mais dont il ne peut s'empêcher de comparer la physionomie à la mine de ce malheureux petit chat fripé, tourmenté par les enfants qui tout à l'heure est venu se blottir sous la chaise, c'était alors celle du visiteur, et dans l'ombre, avec ses deux petites pattes, a longuement débarbouillé, illustré son petit museau, et longtemps encore après, regardait avec ressentiment la nature et la vie. Voyons, interrompit Nastenka, qui écoutait très étonnée, les yeux grands ouverts. Je ne sais s'il a raison de rien de tout cela, ni pourquoi vous me faites des questions si étranges, mais sûrement tout cela a dû vous arriver mot pour mot.
Sans doute, répondis-je très sérieusement.
Alors continuez, car je veux connaître la fin. Vous voulez savoir, Nastenka, ce qu'est devenu notre petit chat sous sa chaise, ou plutôt ce que je suis devenu, puisque je suis le médiocre héros de ses aventures. Eh bien, vous voulez savoir pourquoi ma journée tout entière fut troublée par cette visite inattendue d'un ami, pourquoi j'étais si agité quand la porte de ma chambre s'ouvrit, pourquoi je reçus si mal le visiteur, pourquoi je restais écrasé sous le poids de ma propre inhospitalité. Mais oui, oui, répondit Nastenka, c'est ce que je veux savoir. Écoutez, vous racontez très bien, vous ne pourriez pas raconter moins bien. On dirait que vous lisez dans un livre.
Non, répondis-je d'une voix sévère et imposante, ma chère Nastenka, je sais que je compte très bien, mais excusez-moi, je ne puis compter autrement. Je ressemble, ma chère Nastenka, à cet esprit du tsar Salomon qui avait passé 1000 ans dans une outre scellée de 7 sceaux. À présent, ma chère Nastenka, depuis que nous nous sommes rencontrés, de nouveau après une si longue séparation, car je vous connais depuis longtemps, Nastenka, il y a longtemps que je cherchais quelqu'un, précisément vous, et notre rencontre était fatale. Des milliers de soupapes se sont ouvertes dans ma tête, et il faut que je m'épanche par un torrent de mots, car autrement j'étoufferais. Je vous demande donc de ne plus m'interrompre, Nastenka. Écoutez, avec soumission et obéissance, ou bien je me tais. Nanana, jamais, allez, parlez, je ne souffle plus mot. Je continue. Il y a, mon ami Nastenka, une heure dans la journée que j'aime beaucoup.
C'est cette heure où toutes les affaires finissent, alors que tout le monde se hâte de rentrer pour dîner, se reposer, et tout en marchant, cherche quelques réjouissances pour passer la soirée, la nuit et tout le temps de loisir qui lui reste. À cette heure-là, mon héros, car permettez-moi encore, Nastenka, de compter cela à la troisième personne, il est si pénible pour le conteur de parler en son propre nom. À cette heure-là, donc, notre héros, qui n'est pas un oisif, est en route comme tout le monde. Mais une étrange sensation de plaisir agite son visage pâle et fatigué. Il observe avec intérêt l'aurore du soir qui s'éteint lentement sur le ciel frais de Pétersbourg. Quand je dis observe, je mens. Il n'observe pas, il regarde vaguement, comme un homme là ou qui s'occupe ou lui-même de choses plus intéressantes. De sorte que c'est par moments seulement, et presque sans le vouloir, qu'il a le temps d'observer aussi autour de lui. Il est content car il en a fini jusqu'au lendemain avec les affaires ennuyeuses, content comme un écolier libéré de l'école et qui court à ses jeux préférés et à ses expiègleries. Regardez-le, Nastenka, vous ne serez pas long à voir que la joie a déjà malheureusement agi sur ses nerfs sensibles et son imagination maladivement excitée. Il réfléchit. Vous pensez peut-être qu'il songe à son dîner ou bien à la soirée de la veille. Mais que regarde-t-il ainsi? N'est-ce pas ce monsieur qui vient de saluer si artistiquement cette dame quand elle a passé auprès de lui dans cette belle voiture attelée de si beaux chevaux? Non, Nastenka, ce ne sont pas ces riens qui l'occupent. C'est un homme, à présent, riche de vie intérieure. Il est riche, vous dis-je, les rayons d'adieu du soleil couchant n'ont pas brillé en vain pour lui. Ils ont provoqué dans son cœur tout un essaim de sensations. Maintenant, il examine tout le détail de la route. Maintenant, la déesse de la fantaisie. Avez-vous lu Joukovski, ma chère Nastenka ? A déjà tissé de ses mains merveilleuses sa toile dorée et commence à enchevêtrer les arabesques d'une vie fantasque et imaginaire. Elle a transporté notre héros dans le septième ciel, le ciel de cristal, bien loin de cet excellent trottoir de granit qu'il foule ce soir en rentrant chez lui. Essayez de l'arrêter, demandez-lui brusquement où il est, par quelle rue il a passé. Il ne se souvient de rien. Ni où il est allé, ni où il est, et en rougissant de dépit, il vous fera quelques mensonges pour sauver les apparences. C'est pourquoi il a eu un si vif tressaillement et a failli s'écrier de frayeur quand une honorable vieille femme l'a arrêté au milieu du trottoir en lui demandant sa route. Le visage assombri, il continue sa marche, remarquant à peine que plus d'un passant sourit en le regardant et se retourne pour le voir, et que les petites filles, après s'être éloignées de lui avec terreur, reviennent sur leurs pas pour examiner son sourire absorbé et ses gestes. Mais toujours la même fantaisie emporte dans son vol et la vieille femme, et les passants curieux, et les petites filles moqueuses. Elle enlace gaiement le tout dans son canevas, comme les mouches dans une toile, et l'homme étrange rentre dans son terrier, sans s'apercevoir, dîne sans s'en apercevoir, et ne revient à lui que quand Matrena, sa bonne, dessert la table et apporte la pipe. L'heure se fait sombre, il se sent vide et triste, tout son royaume de rêve s'écroule, sans bruit, sans laisser de traces, comme un royaume de rêve. Mais une sensation obscure se lève déjà en son être, une sensation inconnue, un désir nouveau, et voilà que s'assemble autour de lui tout un essaim de nouveaux fantômes, et lui-même s'anime. Voilà qu'il bout comme l'eau dans la cafetière de la vieille Matrena.
Il prend un livre sans but, l'ouvre au hasard et le laisse tomber à la troisième page. Son imagination est surexcitée, un nouvel idéal de bonheur lui apparaît. En d'autres termes, il a pris une nouvelle potion de ce poison raffiné qui recèle la cruelle ivresse de l'espérance. Qu'importe la vie réelle, où tout est froid, morne. Pauvres gens, pense le rêveur, que les gens réels. Ne vous étonnez pas qu'il ait cette pensée. Oh, si vous pouviez voir les spectres magiques qui l'entourent, toutes les merveilleuses couleurs du tableau où se fiche sa vie, et quelles aventures, quelle suite indéfinie de rêveries. Mais à quoi rêve-t-il? Mais à tout. Au rôle du poète d'abord méconnu et ensuite couvert de lauriers, à sa prédilection pour Hoffmann, à la Saint-Barthélemy, aux actions héroïques de Ivan Vassilievitch quand il prit Kassan, à Jean Hus comparaissant devant le conclave des prélats, à l'évocation des morts d'un Robert le Diable. Vous vous rappelez cette musique qui sent le cimetière? Un Mina et Brinda au passage de la Bérésina, à la lecture d'un poème chez la comtesse W.D. à Danton, à Cléopâtre et ses amants, à la petite maison dans la Colonna, à une chère petite âme qui pourrait être auprès de lui dans ce petit réduit durant toute la longue soirée d'hiver et qu'il écouterait attentive et douce comme vous vous êtes, Nastenka. Non, Nastenka, qu'importe à ce voluptueux paresseux cette vie réelle, cette pitoyable pauvre vie dont il donnerait tous les jours pour une de ses heures fantastiques. Il a aussi de mauvaises heures, mais en attendant qu'elles reviennent, car l'heure qui sonne est douce, il ne désire rien, il est au-dessus de tout désir, il peut tout, il est souverain, il est le propre créateur de sa vie et la recrée à chaque instant par sa propre volonté. Ça s'organise si facilement un monde fantastique. Et qui sait si ce n'est qu'un mirage? C'est peut-être des deux mondes le plus réel. Pourquoi donc, dites-moi Nastenka, pourquoi donc en ce moment les larmes jaillissent-elles des yeux de cet homme que nulle tristesse actuelle n'accable? Pourquoi des nuits entières passent-elles comme des heures? Et quand le rayon rose de l'aurore éclabousse les fenêtres, notre rêveur fatigué se lève de la chaise où le tour du cadran l'a vu assis et se jette sur son lit. Ce serait à croire, Nastenka, qu'il est amoureux. Regardez-le seulement et vous vous en convaincrez. Voyons, est-il possible de croire qu'il n'ait jamais connu l'être qu'il étreignait dans les transports de son rêve? Quoi? Rêvait-il donc la passion? Se pourrait-il qu'ils n'eussent pas marché les mains unies dans la vie, bien des années mêlant leurs âmes? Ne s'est-elle pas, à l'heure tardive de la séparation, penchée en pleurant sur sa poitrine, sans écouter l'orage qui pleurait dehors, tout à l'orage intérieur de leur amour brisé? Était-ce donc tout cela? N'était-ce donc qu'un rêve? Ce jardin triste, abandonné, sauvage, les sentiers couverts de mousse où ils se sont promenés si souvent ensemble, si longtemps et si tendrement. Et cette maison étrange, de ses aïeux où elle vécut si longtemps seule et triste, avec un vieux mari morose, un vieux mari galeux, dont ils avaient peur, eux, les enfants amoureux. Comme elle souffrait et comme, cela va sans dire, Nastenka, on était méchant pour eux. Oh, Dieu, ne l'a-t-il pas revu plus tard, sous un ciel étrange et tropical, dans une ville éternellement merveilleuse, aux mille clartés d'un bal, au fracas de la musique, dans un palazzo, je vous jure, Nastenka, dans un palazzo.
un balcon festonné de myrte et de rose, où, en le reconnaissant, elle se démasqua vite et lui souffla à l'oreille « Je suis libre !» et se jeta dans ses bras en s'écriant de transport dans l'oubli de tout, et la maison morne, et le vieillard morose, et la maison triste du pays lointain, et le blanc sur lequel, après les derniers baisers passionnés de la séparation, elle tomba pâmée, raidie par le désespoir. Oh, qu'en venez, Nastenka, qu'on peut se troubler, rougir comme un écolier surpris dans le jardin où il dérobait les pommes du voisin, si après tant d'événements tragiques qui vous laissent palpitant d'émotions, un ami inattendu, gai et bavard, ouvre tout à coup votre porte et vous crie comme si rien n'était arrivé. « Mon cher, je reviens de Pavlovsk. Dieu de Dieu, le vieux comte vient de mourir, un bonheur infini va commencer pour les deux amants. Et voilà quelqu'un qui revient de Pavlovsk. » Je me tus très pathétiquement. Je me rappelle que je fis un grand effort pour éclater de rire. Je sentais en moi des idées diaboliques remuer. Ma gorge se serrait, mon menton tremblait, mes yeux étaient humides. Je m'attendais à voir Nastenka rire la première de son gai et irrésistible rire d'enfant, et je me repentais déjà d'être allé si loin, d'avoir raconté ce que je tenais depuis si longtemps caché dans mon cœur. C'est pourquoi je voulais avoir ri avant elle. Mais à mon grand étonnement, elle resta silencieuse, me serra légèrement les mains et me demanda avec un accent timide « Avez-vous toujours, vraiment, vécu ainsi ?»« Toujours, Natenska, toujours, et je crois que je finirai ainsi. »« Non, cela ne se peut, » dit-elle avec émotion. Cela ne se peut. Est-ce que je pourrais, moi, passer toute ma vie avec ma babouchka? Ce n'est pas bien du tout de vivre ainsi. Je le sais, Nastenka, je le sais. Et je le sais plus que jamais depuis que je suis auprès de vous, car c'est Dieu lui-même qui vous a envoyé, cher ange, pour me le dire et me le prouver. Maintenant, quand je suis auprès de vous, quand je vous parle, l'avenir me semble impossible, l'avenir, la solitude, l'absence, le vide. Et que vais-je rêver maintenant que je suis heureux auprès de vous en réalité? Soyez bénis, vous qui ne m'avez pas repoussé, vous à qui je devrais toute une soirée de bonheur. Oh non, 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 s'écria Nastenska. « Cela ne se peut pas, ne nous séparons pas ainsi. Qu'est-ce que c'est que deux soirées ?» Des larmes brillaient dans ses yeux. « Oh, Nastenska, Nastenka, savez-vous pour combien de temps vous m'avez donné de la joie? Mais savez-vous que j'ai déjà meilleure opinion de moi-même? Je me repens un peu moins d'avoir fait de ma vie un crime et un péché, car c'est un crime et un péché qu'une telle vie. Et ne croyez pas que j'ai rien exagéré. Par Dieu, non, je n'ai rien exagéré. Par moments, un tel chagrin m'envahit. Il me semble que je ne suis plus capable de vivre ma vie, et je me maudis moi-même. Après mes nuits fantastiques, j'ai de terribles moments de lucidité. Et autour de moi, la vie tourbillonne pourtant, la vie des hommes, celle qui n'est pas faite sur commande. Et pourtant, encore, leur vie s'évanouira comme mon rêve. Dans un peu de temps, ils ne seront pas plus réels que mes fantômes. Oui, mais ils sont une succession de fantômes. Leur vie se renouvelle. Aucun homme ne ressemble à un autre. Tandis que ma rêverie épouvantée, mes fantômes enchaînés par l'ombre sont triviaux, uniformes. Ils naissent du premier nuage qui obscurcit le soleil. Ce sont de tristes apparitions, des fantaisies de tristesse. Et elle se fatigue de cette perpétuelle tension, elle s'épuise, l'inépuisable imagination. Les idéaux se succèdent, on les dépasse, ils tombent en ruine. Et puisqu'il n'y a pas d'autre vie, c'est sur ces ruines encore qu'il faut fonder un idéal dernier. Et cependant, l'âme demande toujours un idéal, et c'est en vain que le rêveur fouille dans la cendre de ses vieux rêves, y cherchant quelque étincelle d'où faire jaillir la flamme qui réchauffera son cœur glacé et lui rendra ses anciennes affections, ses belles erreurs, enfin tout ce qui le faisait vivre. Croirez-vous que je fête l'anniversaire d'événements qui ne sont pas arrivés mais qui m'eussent été chers? Vous savez, des imaginations de balcon. Et fêter ces anniversaires parce que ces stupides rêves ne sont plus, parce que je ne sais plus rêver. Vous comprenez, ma chère, que c'est un commencement d'enterrement. Croirez-vous que je parviens à me rappeler la couleur des lieux où j'ai eu la pensée qu'il pourrait m'arriver un bonheur? Et je les revisite, ces lieux. Je m'y arrête. J'y oublie le présent. Je le réconcilie avec le passé irréparable et j'erre comme une ombre, sans désir, sans but. Quel souvenir! Je me rappelle par exemple qu'ici, il y a juste un an, à cette même heure, sur ce même trottoir, j'errais isolé, triste comme aujourd'hui. Mais alors je ne me demandais pas encore où sont les rêves. Et voici que je hoche la tête et je me dis, comme les années passent vite, qu'en as-tu fait? As-tu vécu? Regarde comme tout est devenu froid. Les années passeront, toujours davantage ta solitude t'accablera et viendra la vieillesse, accroupie sur son manche à balai. Ton monde fantastique pâlira. Novembre, décembre, plus de feuilles à tes arbres, oh Nastenka, ce sera triste de vieillard vieillir sans avoir vécu, n'avoir pas même de regrets, car je n'ai rien à perdre, toute ma vie n'est qu'un zéro rond, un rêve. « Ne me faites donc pas pleurer, » dit Nastenka en essuyant ses yeux. « C'est fini maintenant. Écoutez, je suis une jeune fille simple, très peu savante, quoique ma babouchka m'ait donné des maîtres. Pourtant, je vous assure que je vous comprends. Dites-vous que je serai toujours auprès de vous. J'ai eu... non pas tout à fait la même chose, mais des chagrins presque semblables aux vôtres, quand ma babouchka m'a épinglé à sa robe. Certes, je ne pourrais compter aussi bien que vous. Je n'ai pas assez étudié, ajoute-t-elle. Évidemment, mon discours pathétique, mon grand style, lui avait inspiré du respect. Mais je suis très contente que vous vous soyez confiée à moi. Je vous connais maintenant et moi, vous allez aussi me connaître. Moi aussi, je vais tout vous dire. Vous êtes un homme très intelligent. Vous me donnerez un conseil. Ah, Nastenka, répondis-je, je ne suis pas bon conseiller. Mais il me semble que nous pourrions l'un à l'autre nous donner des conseils infiniment spirituels. « Allons, quel conseil voulez-vous? Me voilà gai heureux et je n'aurai pas besoin d'emprunter mes paroles. »« Je m'en doute, » dit Nastenka en riant, « mais il ne me faut pas un conseil seulement spirituel. Il me le faut aussi cordial, comme d'un ami de 100 ans. « C'est entendu, Nastenka, m'écriai-je tout transporté. Parole, je vous aimerai depuis 1000 ans que je ne vous aimerai pas davantage. »« Votre main, dit Nastenka, la vôtre,